16h ici à Washington, 18h en temps universel. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur VOA Afrique dans votre libre antenne, à votre avis. Alexandrine Colognon à ce micro avec vous. Pour le thème de ce soir, l'année 2024 a vu l'élection de la première femme présidente en Namibie. Dans un discours lors de sa première rencontre avec la presse, Netumbo Nandi-Ndaitwah a affirmé avoir brisé le plafond de verre. Comme elle, de plus en plus de femmes occupent des postes de pouvoir à travers le monde. Mais en Afrique, leur présence dans les instances de décision reste minoritaire. Comment impulser une meilleure représentativité des femmes en politique? Et y a-t-il des femmes africaines en politique qui vous ont inspiré en 2024? Pour ce débat, nous avons avec nous une spécialiste communication genre, Kumbaba. Bonsoir. Bonsoir, Madame Ba, vous nous recevez? Un petit souci avec la ligne de Madame Ba. On va essayer de la voir tout de suite. Et vous, restez avec nous. Vos commentaires et vos avis nous importent. On aimerait vous entendre. Vous pouvez nous rejoindre en direct ou nous laisser des commentaires sur les plateformes digitales de VOA Afrique. Sans plus tarder, on va écouter un premier intervenant via les messages audio que vous nous avez laissés. C'est Alphonse Mbouaki de la RDC qu'on entend.
Alphonse Mbouaki, dans À votre avis. Moi, je pense qu'il faut des textes qui promeuvent les femmes. Comme au Rwanda, il y a des textes qui élèvent les femmes et les 50% des femmes sont dans les assemblées législatives. Donc, il faut une masculinité positive. Il faut une politique positive. Féminine, laisser les femmes aussi aller de l'avant, l'autonomisation des femmes. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'égoïsme et d'égocentrisme de la part des hommes masculins, je pense qu'ils vont aider les femmes à occuper des postes de décision. Aussi, il faut que les femmes aussi s'intéressent à la politique et soient à mesure de les faire, soient aptes, compétentes à les faire. Donc, je pense que c'est là. Les femmes qui m'ont beaucoup inspiré, c'est Madame la Première ministre congolaise, Madame Toulouka, et puis la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui est secrétaire générale de la francophonie, et puis la présidente de la Tanzanie. Il y a une femme qui a été vice-présidente, puis est devenue présidente en Namibie ou Zimbabwe, comme Namibie, je pense. Donc, il y a des femmes qui sont aptes, compétentes à les faire. Donc, voilà quelques-unes des femmes dont je venais de citer les noms qui m'ont inspiré. C'est Alphonse Mbouaki dans À votre avis.
Il faut des textes, il faut une masculinité positive pour aider les femmes à accéder aux postes décisionnels et il faut que les femmes elles-mêmes s'intéressent à la politique. Le commentaire d'Alphonse Mbouaki depuis la RDC, merci à vous Alphonse Mbouaki. Nous avons un premier auditeur en ligne, Jean-Louis de Kigali. Bonsoir Jean-Louis.
Bonsoir madame, comment est-ce que vous allez? Mes vœux pour 2025.
Merci beaucoup, mes vœux réciproques. Que pensez-vous de ce thème et pour vous, quelle femme africaine vous a inspiré en politique en 2024?
En fait, le cas du Rwanda, c'est un cas un peu particulier. Depuis quelques années, il bat tous les records pour le nombre de dames dans le Parlement. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu le génocide contre les Tutsis de 1994. Ce qui fait que beaucoup de dames se sont retrouvées chefs de famille. Et de fil en aiguille, il y a eu le quota qui a été attribué pour 30%. Et ce qui fait que ça a permis justement que des dames émergent dans ce domaine-là. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument que des actions similaires soient un peu passées un peu partout en Afrique. Pour permettre aux femmes d'arriver aussi d'atteindre, de briser le plafond de verre et de s'affirmer. Donc, par rapport...
J'aimerais vous entendre sur la question du quota, justement. Oui. Pour certains, c'est un atout, mais pour d'autres, cela relève de la discrimination. Et selon leur argument, toute personne devrait être recrutée ou nommée selon ses compétences. Est-ce que vous pensez que mettre des quotas est une bonne idée?
Ça dépend, parce que pour être, ça dépend des constitutions des pays. mais je pense qu'il y a un niveau minimum d'études qui est requis pour à devenir parlementaire. Donc, à partir du moment où ce critère est rempli, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher qu'il y ait une attribution de 30% du quota pour les dames.
On va vous garder quelques petites minutes avec nous, Jean-Louis, pour continuer ce débat. Madame Koumbaba vient de nous rejoindre. Bonsoir, Madame Ba.
Et très belle année 2025 à nous toutes et tous.
Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste communication genre et animatrice télé. On parlait, juste avant que vous nous rejoigniez, on parlait de la question du quota. Nombreux sont ceux qui relèvent, certains disent plutôt que la question du quota peut être de la discrimination. Pour d'autres, c'est un atout, comme vient de le relever à Jean-Louis de Kigali, qui a aidé les femmes rwandaises à avoir une belle représentativité au sein de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de la question du quota? Faut-il ou non des quotas?
Bon, il faut des quotas en Afrique obligatoirement, mais les 30% que nous voyons beaucoup dans nos pays, nous devons savoir que ce n'est pas justice et ce n'est pas juste et ce n'est pas légal. Parce que la plupart de nos pays africains sont partie prenante du protocole de Maputo. Et le protocole de Maputo, ainsi même que la Charte africaine des droits humains, s'inscrit en direct ligne avec la parité, le 50-50, l'égalité. Donc, beaucoup pensent que quand on a les quotas, on fait faveur aux femmes. Or, ce n'est même pas ce que nos pays ont demandé, ont signé eux-mêmes de leur propre chef. Donc, le quota est là, mais dans des pays, par exemple, comme le mien, où il y a une loi dite du genre...
Vous parlez du Mali?
Le Mali, la loi 052 du Mali qui a été adoptée depuis 2015. Malheureusement, tous les gouvernements, même le gouvernement qui a été à l'origine de cette loi en 2015, quand il a eu son premier gouvernement, après que la loi ait été votée, n'a pas respecté. Donc nous avons beaucoup de problèmes. Parce que inscrire le quota et appliquer le quota, ça fait complètement deux en Afrique, particulièrement dans des pays comme le mien. Donc, on a beaucoup à faire. Or, toute politique qui se fait sans les femmes, c'est une politique qui ne va pas aller loin. Parce que nous sommes complémentaires et égaux, et nous sommes deux sur Terre, en tout cas en matière de sexe, peut-être pas en matière de genre, mais il faudrait qu'on puisse avoir l'inclusivité pour pouvoir sortir nos pays de l'ornière. Parce que ça fait plus de 60 ans que nous nous débattons après les colons, et on n'arrive pas à émerger justement parce que nous semblons avoir fait du copier-coller avec le colon.
D'autres critiques que j'ai eu à relever en préparant cette émission, ce sont les questions de compétences. Pour certains, les femmes nommées à des postes de responsabilité ne sont pas vraiment compétentes parce qu'on doit respecter ces quotas justement. Elles ne seraient pas assez aptes à relever les défis qu'on leur confie. Est-ce que vous pensez que les femmes font face à plus de critiques et de jugements que les hommes lorsqu'elles occupent des postes de pouvoir?
Absolument. Absolument. Et si nous devons enlever tous les hommes incompétents, les copains là, à des gouvernants qui sont dans nos gouvernements, on n'aurait plus de gouvernement. Il y a combien d'hommes incompétents, corrompus, qui occupent des postes? Et avec la femme, nous savons que beaucoup de fois, c'est même de l'autocensure qu'on se fait. Nous sommes beaucoup plus compétentes. Aujourd'hui, quand on voit au niveau de nos écoles primaires, au niveau de nos écoles secondaires, même dans nos universités, qui sont les premières de la classe? C'est les femmes, c'est nous. Donc nous dire que nous ne sommes pas compétents, ça c'est vraiment des distractions. Et qu'est-ce qu'on doit faire même pour qu'on soit compétente? Il faut que l'État respecte ses constitutions, qui demande l'égalité, qui demande que tous les enfants, sans discrimination de sexe, ni de race, ni de quoi que ce soit, soient éduqués, soient instruits. L'école est obligatoire et gratuite dans la plupart de nos constitutions. C'est ce qui est écrit. Donc maintenant, quand on finit, on va dire on n'est pas compétente. Qui a fait pour qu'on soit compétente? Mais ça même, c'est un faux discours. Aujourd'hui, dans nos pays, si les gouvernements veulent appliquer leurs lois, ils vont trouver plus qu'il ne faut de femmes compétentes avec des expériences et avoir du savoir-faire et du savoir-être. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans le monde, c'est les études qui ont démontré ça, nous sommes moins aptes à être soumises à la corruption. Nous sommes beaucoup plus en termes d'intelligence émotionnelle, en termes de savoir comment dealer avec les êtres humains. Les femmes excellent beaucoup plus sur ça que les hommes. Donc nous avons notre façon féminine, notre façon à nous de faire qui ne peut que compléter, mais ne pas détruire et réduire le pouvoir des masculins, des hommes masculins.
Madame, donc, nous allons écouter la réaction des hommes qui sont avec nous. Jean-Louis de Kigali, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette question.
C'est-à-dire, moi, peut-être, je n'ai pas cette expertise pour donner un point de vue au niveau africain, mais ce que j'ai vu à mon niveau micro, c'est-à-dire au niveau du Rwanda, je pense que ça nous a beaucoup apporté, beaucoup de baume sur le cœur, d'avoir des dames à des postes de responsabilité, parce que ça ne se limite pas seulement au Parlement, mais dans d'autres structures aussi. Donc, quand on regarde, par exemple, les principales structures financières du pays, je crois que nous avons plus de 3 ou 4 dames qui sont aux commandes, et les banques se portent pas plus mal. Donc, ça veut dire qu'on peut jongler, non seulement quitter le monde politique, mais aller dans le domaine technique, comme la médecine, comme les finances. Il y a des dames qui excellent. Donc, je ne vois pas pourquoi je m'opposerai à cela.
On va écouter Ozana Dibranger du Tchad qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Ozana.
Bonsoir, la VOA Afrique. Bonne année à tous les panafricains du monde entier.
Bonne année à vous également. Vous avez suivi l'échange entre Mme Koumbaba et Jean-Louis de Kigali. Quel est votre avis sur cette question, déjà sur le thème de ce soir?
Moi, je crois que les femmes sont bien placées aujourd'hui au 21e siècle pour exceller en politique. Hein. C'est comme ça qu'au Tchad, vous savez, on a assez de femmes qui sont des chefs de partis politiques, assez de femmes qui occupent des postes ministériels, assez de femmes qui sont des députés, qui dirigent, qui ont des postes de responsabilité dans mon pays, le Tchad. Donc, ce qu'il faut faire, nos autorités, les hautes autorités doivent tout simplement encourager ces femmes-là. Parce que si on essaie, c'est des femmes qui font des travaux impeccables, c'est des femmes qui produisent bien. Donc, il n'est pas question de dire aujourd'hui qu'il ne faut pas travailler à des postes de responsabilité. Sinon, moi, je crois que c'est... Il faut plutôt encourager, permettre à ces femmes-là de s'exprimer, de donner leur contribution, d'apporter des pertes de contribution pour le développement de l'Afrique d'une manière générale.
Nous avons eu l'exemple du Rwanda et du Mali dans cette émission. Est-ce qu'il existe un quota au niveau de l'Assemblée nationale au Tchad?
Oui, il y a un quota au Tchad. Le gouvernement a octroyé 30% de quota pour des femmes. Malheureusement, ces quotas ne sont pas respectés. Il y a des femmes qui ne sont pas des bras qui sont de lutter pour cela, c'est qu'on se dise pratiquement sur le terrain. Donc, il y a des avancées. On a constaté que les femmes aujourd'hui sont là dans des postes de responsabilité. On a plus de 6 ou 7 femmes qui sont ministres dans l'actuel gouvernement du Tchad. Donc, c'est déjà pas mal, mais moi je pense que c'est toujours insuffisant. Il faut encore faire plus que ça. Et il y a des femmes compétentes pour moi au niveau du Tchad. Hein, je parle du cas de mon pays. J'ai constaté qu'il y a des femmes qui peuvent mieux faire que les hommes. Donc, ce qui reste à faire, c'est de permettre à ces femmes-là de s'exprimer, de contribuer, de travailler. Et je crois que ça va être bénéfique pour mon pays. Et que d'autres pays africains puissent aussi emboîter ce pas-là. Sinon, pour moi, si on ne permet pas à ces femmes-là de travailler, c'est plutôt que de la discrimination. Donc, on doit éviter ça et laisser le champ aux femmes de contribuer, de travailler, de mettre en pratique leur savoir-faire pour le développement du continent africain.
Merci pour ce partage, Ozana. Je reviens à vous, Jean-Louis. Comment, selon vous, peut-on encourager les jeunes filles à être les leaders de demain, si vous avez quelques conseils à donner?
D'abord, c'est accorder les mêmes chances au niveau des études. Et comme la dame qui a précédé du Mali, elle a dit que au niveau des performances, il y a des jeunes filles qui ont des meilleures notes que celles des garçons, parfois. Donc, c'est accorder les mêmes choses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la société telle qu'elle est conçue, il y a des branches pour lesquelles on pensait que, traditionnellement, les jeunes filles ne pouvaient pas accéder. Par exemple, les mathématiques, les branches comme ça, la chimie, des trucs pareils. Et permettre justement à ces jeunes filles de s'exprimer, de pouvoir suivre ces branches-là et accéder, pourquoi pas, à devenir ingénieur, tous les domaines techniques, et puis s'exprimer dans la société.
Merci Jean-Louis de Kigali, on vous souhaite une très bonne soirée, merci pour votre fidélité à cette émission. Je reviens à vous pour la même question, Dimrangar, si vous avez un conseil à donner à des jeunes filles pour devenir des leaders de demain. Dimiran Guerre ne semble pas être avec nous. Merci beaucoup.
Oui, pour
On vous reçoit aussi, Dimiran Guerre. Si vous avez des questions, des conseils, pardon, à donner aux jeunes filles pour les encourager à être des leaders de demain, que diriez-vous?
Moi, je crois que les filles, les jeunes filles, surtout, les parents doivent les encourager et elles sont conscientes. Parce que le monde de maintenant, c'est le monde de compétences, donc les filles doivent travailler pour être capables de se mesurer aux hommes, d'arracher ce qu'ils leur reviennent de droit. Parce que c'est la seule solution qui peut leur permettre de aussi d'être sur la scène politique. Et donc c'est tout simplement le travail bien fait, et essayer encore de se donner à fond pour ne pas que la marginalisation ou la discrimination puisse continuer. Donc il faut que les jeunes filles se mettent surtout au travail, le travail bien fait. Et je crois qu'ils auront leur place dans la scène, à tous les niveaux, quoi que ce soit, en politique, en poste de responsabilité, même, pourquoi pas, avoir plus de 5 ou 6 femmes à la tête de nos pays africains. Donc, il y a un travail qui reste à faire à ces niveaux, à tous les niveaux. Et les hommes aussi doivent contribuer pour donner accès aux filles, aux jeunes filles, à des femmes, pour vraiment essayer de changer la donne, quoi.
Merci beaucoup, Zana Dimrangar, et très bonne soirée à vous également. Je précise que Madame Koumbaba, spécialiste communication genre, est toujours avec nous. On va écouter une réaction audio, cette fois-ci, la réaction de Christian Politassi de la RDC. On revient juste après.
Les femmes sont des héroïnes. Elles interviennent lorsque les autres n'arrivent pas à donner solution à un problème. Et donc la représentativité n'est pas mauvaise, mais ce qui importe c'est l'apport qualitatif. Et les rares de fois que les femmes ont intervenu par rapport à une situation, eh bien la réponse était sans appel. Regardez l'apport de Jeanne d'Arc en France. Regardez l'apport de Kimpavita Fan Béatrice en RDC, d'Anouari Tenengapeta en RDC, ou encore des mamans au Lang, sur le plan des religions, en RDC toujours. Et donc, vous verrez qu'à chaque fois que la femme a intervenu, son apport était sans appel. C'était une situation où les hommes ne pouvaient pas donner solution. L'essentiel, ce n'est pas que la femme soit partout. Mais le plus important, c'est que l'homme doit cesser d'être égoïste. C'est ça le plus important. Lorsque nous arriverons à extirper l'égoïsme en nous, en comprenant que l'absence ou la présence de la femme ne peut pas nous empêcher à lui octroyer les droits qui lui reviennent, ça sera l'avancement du monde, l'avancement des choses. Il ne faut pas vouloir que la femme soit partout, la représentativité, oui. Mais qu'est-ce qui vous fait croire, ou qu'est-ce qui nous font croire que lorsque les femmes seront représentatives, c'est alors que les solutions viendront? Nous avons besoin de la qualité, de l'apport des femmes, et non de la quantité. Des hommes sont les hommes, mais est-ce que toutes ces personnes, tous ces hommes, apportent grand-chose comme changement? Ils sont racontés au bout des doigts. Ce n'est pas vraiment important. C'est ce que moi je pense. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Il faut extirper l'égoïsme de l'homme et comprendre que la femme a un apport, a une capacité extraordinaire. Et laisser la femme à sa place, à intervenir lorsque nous n'arrivons pas, c'est alors que les solutions seront au rendez-vous. Merci, c'est Maître Politassi depuis Kinshasa.
À votre avis sur VOA Afrique.
À votre avis sur VOA Afrique, ce soir nous nous intéressons à la représentativité des femmes à des postes de pouvoir. L'année 2024 a vu l'élection de la première femme présidente en Namibie et dans son discours, Netumbo Nandi Ndaitwah a affirmé avoir brisé le plafond de verre. Et comme elle, de plus en plus de femmes occupent des postes de pouvoir à travers le monde, mais en Afrique, leur présence dans les instances de décision reste minoritaire. Comment, selon vous, impulser une meilleure représentativité des femmes en politique? politique. Tout à l'heure, Christian Politassi de la RDC nous disait que nous avons besoin de la qualité de l'apport des femmes et non de la quantité. Madame Ba, vous êtes toujours avec nous?
Hello.
Oui, vous êtes toujours avec nous, Madame Ba?
Oui, je suis avec vous.
Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi la question de la représentativité des femmes à des postes de décision est importante aujourd'hui? Pourquoi devrait-on remettre ce sujet sur la table?
Oui, bon, on doit remettre le sujet sur la table pour des questions même de développement et de survie et d'émergence de l'Afrique. Et je pense que ce serait très bien si nous revisitons nos histoires. Parce que la narrative populaire voudrait qu'on stigmatise l'Afrique comme disant que c'est nous qui ne donnons pas la place à la femme. Or, si nous revisitons nos histoires, même dans le monde actuel, si on prend les continents, l'Océanie, comprendre l'Asie, comprendre l'Amérique, comprendre l'Europe et comprendre l'Afrique, seule l'Europe peut-être est en train de faire mieux que l'Afrique en termes de représentativité ou même de femmes au pouvoir. Vous regardez en Océanie, le taux n'est pas meilleur. Vous voyez en Asie, le taux n'est pas meilleur. Moi, je parle des États-Unis et de l'Amérique latine. Je suis sur le continent américain aujourd'hui. Ce n'est pas meilleur. On voit même les prognostics avec déjà les nominations que le nouveau président Donald Trump est en train de montrer. Il y a très peu de femmes. Mais en Afrique, où tout est à construire, comment les hommes seuls peuvent construire. La question de la représentativité des femmes aujourd'hui, c'est une question de survie, c'est une question économique.
Je reviens encore sur le commentaire de Christian Politassi qui disait qu'il faut la qualité de l'apport des femmes et non la quantité.
Oui, mais moi je vais plutôt écouter le commentaire où il disait aux hommes d'arrêter d'être égoïstes. Parce que celle qui est déjà en position de faiblesse, celle qui ne va pas majoritairement à l'école, celle qui n'a pas nécessairement droit à la parole, comment voudriez-vous qu'elle puisse sortir du silence, de l'ombre, pour venir à la lumière? C'est ceux qui sont déjà au pouvoir, les hommes masculins, qui doivent beaucoup aider. Mais le problème de la qualité aujourd'hui, c'est vraiment distraction. Peut-être le problème de la qualité en quantité, parce que nous ne sommes pas nombreuses à avoir accès à l'école. Nous ne sommes pas nombreuses à être encouragées à poursuivre nos études. Mais celles qui sont déjà là, qui ont fini, qui sont médecins, qui sont commandants de l'air, qui sont généraux d'armée, elles excellent beaucoup plus que les hommes masculins. Mais il faudrait qu'on le fasse de la place.
On va écouter la réaction de l'unique femme qui a bien voulu participer à cette émission en dehors de vous, Rachel Biloguet, elle est du Gabon.
Bonjour VOA, je suis Rachel Biloguet et je réagis depuis Libreville au Gabon. Le Gabon est l'un des rares pays en Afrique où on retrouve les femmes politiques, encore appelées les femmes de pouvoir, qui ont marqué leur temps. Elles sont nombreuses. Je vais prendre cependant deux exemples marquants. Le premier, c'est la toute première femme premier ministre du Gabon, Rose Christiane Osoka-Raponda, que nous avons eue. Le deuxième exemple est la toute première femme présidente de la République du Gabon par intérim, Rose Francine Rugombe, qui est décédée en 2015. Et pour le cas de la Namibie récemment, qui a vu l'élection de la toute première femme présidente de ce pays, montre qu'en effet il y a une évolution, même si beaucoup reste encore à faire. On a espoir avec la dynamique de la nouvelle génération de femmes battantes qui veulent montrer ce qu'elles savent faire, qui s'affirment davantage partout en Afrique. On a espoir que ce problème là ne sera plus un obstacle pour les femmes et aussi pour le pays ou le continent, parce que avoir une femme politique, c'est un plus pour le pays, c'est un plus pour le continent, parce que à travers ça, nous serons ou nous sommes davantage plus compétitifs. face aux autres continents. Donc.
Merci pour votre réaction, Rachel Biloguet du Gabon. Madame Barr, un commentaire avant qu'on accueille le prochain auditeur?
Non, je pense que ce qu'elle dit, je vais seulement ajouter que ce n'est pas seulement la Namibie. La Namibie, c'est beaucoup plus récent, mais nous avons l'Éthiopie. Je pense qu'elle est au pouvoir depuis plus de 3 ans maintenant. Nous avons des femmes chefs de gouvernement au Togo, nous en avons en Tanzanie. En Tanzanie, elle est même plus ancienne que celle de l'Éthiopie. Donc, nous n'avons pas de problème par rapport à la compétence. Et l'Africain a tout à gagner à réviser son histoire. Parce que nos ancêtres depuis l'Égypte ancienne ont toujours travaillé main dans la main, femmes et hommes. Personne n'a été exclu du pouvoir, personne n'a été exclu des cercles de décision. C'est comme ça que l'Afrique doit évoluer.
Nous avons depuis le Tchad, Nuku, bonsoir, bienvenue.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à vos invités.
Merci de prendre part à cette émission. Qu'est-ce que vous pensez du thème de ce soir? Comment impulser une meilleure représentativité des femmes en politique, selon vous?
Bon, moi, je pense que il s'agit, comme disait la femme, il s'agit d'une question de survie. Même s'il faut faire des discriminations positives, moi, je pense que il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce que la femme, qu'elle a une femme, qu'il faut lui donner un poste de responsabilité. Moi, je pense qu'il faut avoir un certain nombre de compétences. Donc, si la femme est compétente, si la femme est battante, je pense que elle fera une place, hein, elle fera une place au milieu des hommes. Comme disait la dame, en Éthiopie, nous avons une présidente de la République, non, mais c'est le premier ministre qui gouverne, qui dirige le gouvernement. Et en Namibie, comme vous avez venu de dire qu'elle est devenue présidente, en Tanzanie, tout ça, même en Centrafrique, nous avons vu une dame qui était présidente des transitions, tout ça, au Gabon. Bon, ce n'est pas un président, une présidente ou élue, ou je ne sais pas, une présidente de transition, mais à l'intérieur de l'administration d'une manière générale, comment la femme doit évoluer avec les hommes. Donc maintenant, moi, je pense que l'Afrique a beaucoup compris.
Un petit souci avec la liaison.
Des jeunes filles,
on vous entend. Ouais.
Même les femmes qui sont au foyer continuent à faire des études, tout ça, des femmes de grands docteurs, tout ça. Donc, je pense qu'elles peuvent faire une place au milieu des hommes. Et même le pays, mon pays, le Tchad aussi, a fait des lois, hein, une discrimination positive, c'est-à-dire un quota de 30% dans l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, tout ça. Et ça a été beaucoup, beaucoup trop respecté. Donc moi je pense que c'est une bonne chose et la femme doit se battre.
Nuku, j'ai une question pour vous, Nuku. Beaucoup de plusieurs auditeurs ont insisté sur le rôle des hommes, l'apport des hommes pour que les femmes puissent arriver à cette représentativité, surtout en politique. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà voté pour une femme, que ce soit pour une collègue, que ce soit au niveau local ou un député? Est-ce que vous avez déjà voté pour une femme?
Oui, oui, il m'arrive de, par exemple, de soutenir une femme. Si, par exemple, une femme que, par exemple, si je la connais bien, qu'elle est compétente, elle peut diriger une, par exemple, une association, ou bien, je ne sais pas, une ONG, ou bien, je ne sais pas, même à l'Assemblée, si je vois que la femme est compétente, si elle a tous les critères, je peux la soutenir, ou, mais je peux même la voter. Mais dans les cas où ce n'est pas parce que, je ne sais pas, elle est belle, ou bien, elle a un peu de charisme, ou bien, je ne sais pas, parce qu'elle est une seule femme, au milieu des hommes qu'on doit la soutenir. Mais il ne faut pas que dans une association ou bien dans les ONG ou bien dans les banques, le rôle de la femme doit être de caissière ou bien de trésorière. Donc il ne faut pas qu'on colle souvent l'argent à la femme parce que les femmes, d'une manière générale, naturellement, elles sont gestionnaires.
Merci.
Donc moi, je suis pour la discrimination positive et il faut soutenir les femmes.
Merci beaucoup, Nuku, pour votre réaction depuis le Tchad. Merci à vous tous qui avez pris la peine de réagir à ce thème ce soir, femmes et représentativité en politique, notamment à votre avis, fin de ce débat. Alexandrine Rollognon à ce micro, Firma Koyaweda à la production. Nous avons eu la chance d'avoir quelques commentaires de la part de Kumbaba, spécialiste communication genre et animatrice télé. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique et tout de suite un nouveau journal avec Jean-Roger Billon.